VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 24 octobre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Ici aux États-Unis, le chef d'état-major interarmes, le général Joseph Dunford, donne un briefing sur l'embuscade qui a coûté la vie à des soldats américains et nigériens le 4 octobre au Niger.
En République démocratique du Congo, retrait du parti de Vital Kamerhe du gouvernement de transition.
Au Togo, nouvel appel de l'opposition pour d'autres manifestations le mois prochain contre le président Fornia Singbe.
Le gouvernement gabonais rejette toute autre enquête internationale que la CPI sur les violences post-électorales de 2016.
Visite surprise du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Irak et en Afghanistan.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le chef d'état-major interarmes des États-Unis, le général Joseph Dunford, a déclaré hier que les familles des quatre soldats tués le 4 octobre dernier au Niger méritent une enquête rapide et correcte. Le général Dunford a rencontré la presse hier, alors que l'administration Trump s'évertue à clarifier la situation à la suite de cette tragédie qui a coûté la vie aussi à des soldats nigériens.
Reconnaissant que beaucoup de questions restent pour le moment sans réponse, il a dit que selon une évaluation préliminaire, les forces américaines sont tombées dans une embuscade tendue par des combattants d'une tribu locale liée au groupe État islamique. Le chef d'état-major interarmes a souligné que cette organisation va tenter d'établir une présence en Afrique de l'Ouest alors qu'elle est chassée de Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Les opérations américaines dans la région, a-t-il poursuivi, visent à entraîner les forces locales pour empêcher une telle présence.
En République démocratique du Congo, le parti de Vital Kamerhe quitte le gouvernement de transition. Il a fait savoir, à travers un communiqué hier à Kinshasa, l'Union pour la nation congolaise justifie cette décision par le retard et l'incertitude liés à l'organisation des élections en RDC. Précision de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans une déclaration rendue publique après une réunion de sa direction politique, l'Union pour la Nation Congolaise a décidé du retrait de son délégué au gouvernement en la personne de Monsieur Pierre Kangudia, le ministre d'État au budget. Le communiqué signé par Vital Kamerhe justifie cette décision par le retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017. L'UNC rappelle que sa participation au gouvernement avait pour objectif de contribuer à l'organisation des élections dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre et qu'à ce jour, la Commission électorale nationale indépendante n'a toujours pas publié le calendrier électoral conformément au dit accord. L'intéressé, le ministre du Budget, joint au téléphone par Top Congo FM, n'a pas souhaité commenter cette décision de son parti sortie d'une réunion à laquelle il a pris part. Notez par ailleurs que quelques heures après la publication de ce communiqué, Vital Kamerhe a, au nom de son parti, officiellement notifié le Premier ministre Bruno Tshibala de la décision du retrait de son délégué au gouvernement de la transition. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Togo, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations le mois prochain contre le régime du président Fornia Singbe après 2 mois de crise politique. Le point avec Solange Niamoulissa.
Éric Dupuis, porte-parole de la coalition de l'opposition, a invité les Togolais à manifester pendant 3 jours, les 7, 8 et 9 novembre à Lomé. Il a également invité les Togolais de la diaspora à participer pour dire au président Fornia Singbe qu'un Togolais ne devrait pas faire plus de 10 ans à la tête du pays. Il a aussi annoncé des meetings à l'intérieur du pays dans les prochains jours. Le gouvernement a interdit toute manifestation en semaine, mais l'opposition refuse de se plier à cette interdiction. Le calme est revenu lundi à Lomé, après 2 jours d'échauffourée la semaine dernière à Bé, quartier de l'opposition. Les forces de sécurité sont encore présentes dans les villes de Sokodé et Bafilo, après une nouvelle arrestation dimanche d'un représentant religieux proche d'un parti d'opposition. La coalition regroupant 14 partis politiques de l'opposition demande une limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels et réclame aussi la démission du président Fornia Singbe à la tête du Togo depuis 2005.
Le Gabon ne donnera suite à aucune demande d'enquête internationale sur les violences post-électorales de 2016. L'enquête en cours de la Cour pénale internationale devra suffire. C'est ce qu'estime le porte-parole du gouvernement. Des détails avec Yacouba Ouédraogo.
Mercredi, la délégation de l'Union européenne à Libreville a insisté sur la nécessité d'une enquête indépendante sur les violences post-électorales de 2016. Le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibi Nzé, a avancé que son gouvernement est surpris de cette demande, car le Gabon a déjà saisi la Cour pénale internationale sur ces violences. M. Bilibi Nzé a précisé que Libreville n'entend accéder à aucune autre demande d'enquête internationale, déplorant une communication intempestive de la part de l'Union européenne. La délégation européenne est engagée depuis début octobre dans un dialogue avec Libreville sur les questions des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le ministre de la Communication soutient que le Gabon participe de bonne foi à ce dialogue. Il a toutefois réaffirmé que son pays est souverain et n'acceptera aucun dictat ou une quelconque forme de mainmise, précisant qu'il n'est pas question que l'Union européenne devienne juge et se transforme en tribunal.
Plus de 2000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés depuis le 22 septembre en Algérie et expulsés vers le Niger et le Mali, a indiqué hier Amnesty International. L'Association de défense des droits de l'homme dénonce des arrestations arbitraires et des expulsions massives illégales. Le point avec Abdourahman Dia.
La plupart des personnes arrêtées à Alger, dans sa périphérie et à Blida, ont été conduites en bus à Tamandracet, près de 2000 km plus au sud, avant d'être abandonnées du côté nigérien, explique Amnesty. L'ONG ajoute qu'au moins une centaine d'autres ont dû marcher pendant 6 heures dans le désert. Amnesty International dénonce des arrestations fondées sur un profilage ethnique et appelle les autorités algériennes à mettre un terme de toute urgence à ces expulsions. En septembre, l'Algérie avait déjà rapatrié 1 million de Nigériens en situation irrégulière. En juin, un hashtag « Non aux Africains en Algérie » sur les réseaux sociaux avait suscité une vive polémique alimentée par des propos anti-migrants d'Ahmed Ouyahia, devenu en août Premier ministre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain a effectué une visite surprise en Irak après un séjour similaire en Afghanistan. Il devait rencontrer à Bagdad le premier ministre Haider al-Abadi. Auparavant, M. Tillerson avait discuté de la nouvelle stratégie américaine pour l'Asie du Sud avec le président Ashraf Ghani et d'autres hauts responsables afghans à la base aérienne de Bagram, non loin de Kaboul.
Le programme nucléaire militaire nord-coréen constitue une menace grave et sans précédent pour les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, ont affirmé aujourd'hui les ministres de la Défense des trois pays. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, et ses homologues asiatiques se sont engagés lors d'une rencontre aux Philippines à accroître les pressions diplomatiques sur Pyongyang et à renforcer leur coopération militaire. Les tensions sont particulièrement fortes dans la péninsule en raison de l'intensification des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, pourtant interdits par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Les États-Unis ont annoncé hier réduire encore davantage leur aide aux unités birmanes et aux officiers impliqués dans les violences contre la communauté musulmane des Rohingyas à l'origine d'un exode massif. C'est ce qui ressort d'un communiqué du Département d'État cité par l'AFP. Nous exprimons notre plus grande inquiétude face aux récents événements dans l'état de Rakhine et aux violents abus traumatisants que les Rohingyas et d'autres communautés ont endurés, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert, annonçant une série de mesures punitives.
Près d'une quarantaine de femmes ont accusé lundi, dans le Los Angeles Times, le réalisateur américain James Toback de harcèlement et d'agression sexuelle commises sur plusieurs décennies. Ces nouvelles révélations s'inscrivent dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein qui secoue Hollywood et pousse de nombreuses actrices à dénoncer ouvertement des pratiques jusqu'ici passées sous silence dans l'industrie américaine du cinéma, avec notamment des allégations de pédophilie qui font surface.
Retour sur le continent pour terminer. La journée scolaire a été perturbée lundi à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, par des groupes d'étudiants. D'après l'AFP, certains de ces groupes armés de gourdins ont fait irruption dans les cours, délogeant élèves et enseignants. Les manifestants, dont certains se réclamaient de la puissante fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, ont paralysé le principal axe routier du nord du pays, qui part vers le Mali et le Burkina Faso, avant d'être dispersé par les forces de l'ordre. La ville était quadrillée en fin de journée par les forces de l'ordre, qui ont notamment pris position devant les établissements scolaires. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
Abidjan accueille depuis hier une semaine de formation à l'intention des opérateurs de la filière du cajou venant de 12 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire, bien entendu. Le programme porte sur les techniques de récolte et sur la valeur ajoutée à travers la transformation. Les opérateurs veulent rendre le domaine plus compétitif afin de créer plus de richesses et lutter contre la pauvreté. Le groupe minier Lonmin va supprimer plus d'un millier de postes en Afrique du Sud à cause du niveau toujours bas des cours du platine et de la hausse de ses coûts. Lonmin, basé à Londres, mais dont toutes les mines se trouvent en Afrique du Sud, est également confronté à des difficultés opérationnelles et au renforcement du rand. Pour la deuxième fois, la Sierra Leone mettra aux enchères un diamant de taille exceptionnelle, baptisé le diamant de la paix, le 4 décembre prochain à New York. En mai dernier, le gouvernement avait refusé l'offre la plus élevée de 7,8 millions de dollars pour ce diamant de 709 carats. Freetown veut lever plus d'argent pour financer des projets d'eau potable, d'électricité, d'éducation et de santé en Sierra Leone, notamment dans le village de Koriardou, où le diamant a été découvert en mars dernier par le pasteur évangélique Emmanuel Momou.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ronaldo, meilleur joueur FIFA de la saison dernière.
La FIFA a dévoilé hier soir à Londres ses prix des meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs, meilleurs buts et récompense évidemment la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui termine premier devant Messi et Neymar. Il a poursuivi son insatiable moisson de titres la saison dernière. Il a remporté sa deuxième Ligue des Champions d'affilée, la 12e de l'histoire du Real Madrid. Il a enlevé évidemment le très relevé championnat d'Espagne. On se souvient qu'en finale de la Ligue des Champions, Ronaldo s'était offert un doublé contre la Juventus Turin pour terminer meilleur buteur du tournoi avec 12 buts, juste devant son rival l'Argentin Lionel Messi. Ronaldo est évidemment favori pour le prochain Ballon d'Or. On rappelle Idrissa que pour désigner les trophées FIFA, un panel de votants est composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales, mais aussi des journalistes et des fans.
Et Zidane, meilleur entraîneur.
Et oui, c'est logique, là encore, le Real Madrid vainqueur, l'entraîneur du Real a décroché le prix du meilleur entraîneur. Il avait terminé en deuxième position en 2016 derrière Claudio Ranieri. Zidane, qui a fêté le week-end dernier son 100e match sur le banc du Real, a fait de l'équipe merengue une machine à gagner depuis sa nomination en janvier 2016. Tenez-vous bien, deux C1 d'affilée, une Liga, un Mondial des clubs, deux Supercoupes d'Europe et une Supercoupe d'Espagne. Cela fait 7 titres en moins de 2 ans. On notera également que lors de cette cérémonie, le Togolais Francis Koné a remporté le titre de joueur du fair play.
Everton se sépare de son entraîneur.
Après une première saison prometteuse, l'entraîneur Ronald Koeman a été remercié hier par Everton au lendemain d'une gifle 5-2 à domicile contre Arsenal. Le technicien néerlandais de 54 ans qui avait conduit le club à la 7e place la saison dernière n'a pas pu résister à ce début d'exercice raté. Allez, enfin Idrissa, avec vous quelques résultats de la nuit en NBA. Le championnat de basket nord-américain.
Philadelphia Sixers bat Detroit Pistons 97-86. Atlanta Hawks succombe au Miami Heat 104-93. Memphis Grizzlies bat Houston Rockets 98-90. Milwaukee Bucks a eu raison de Charlotte Hornets 103-94. Et les champions Golden State Warriors massacrent les Dallas Mavericks 133-103. Et puis San Antonio Spurs bat Toronto Raptors 101-97. Enfin, Washington Wizards bat Denver Nuggets 109-104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nikki Haley, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, effectue une tournée en Afrique. Elle se rend d'abord en Éthiopie, qui abrite le siège de l'Union africaine, puis au Soudan du Sud, le plus jeune pays au monde ravagé par la guerre. Elle terminera sa visite en République démocratique du Congo, pays qui traverse une crise politique aiguë et des conflits dans plusieurs provinces. Pour un éclairage, Ekia Badou a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Le président Trump a bien reconnu qu'il y a des crises. Je crois qu'il a utilisé le mot « crise » dans certains pays. Et Mme Haley connaît bien l'Afrique déjà parce que depuis son arrivée à l'ONU, elle a traité beaucoup de problèmes africains. Donc je crois que c'est une très bonne chose.
Alors, est-ce qu'on peut parler de politique africaine de Donald Trump?
Oh, c'est un peu tôt. Il n'a pas fait des déclarations. Il n'a pas parlé de l'Afrique dans ses discours. Mais je crois qu'à mon avis, je crois qu'il a continué la politique d'Obama. C'est-à-dire, nous n'avons pas des problèmes stratégiques en Afrique. C'est surtout voir les Africains avancer dans le développement économique. Et quand il y a des crises qui empêchent ça, peut-être nous pouvons contribuer. Je crois que certains programmes d'Obama, comme Power Africa, avancer l'électricité en Afrique, Feed the Future, c'est-à-dire amener la technologie pour l'agriculture, il va continuer ces programmes. Donc je crois que c'est la continuation d'Obama jusqu'à maintenant.
Pourquoi, selon vous, nous n'avons pas encore connaissance d'un nouveau nom, d'un nouveau secrétaire d'État aux affaires africaines?
Président Trump a bien nommé quelqu'un, c'est le Dr. Peter Pham, qui est un des grands experts sur les affaires africaines partout aux États-Unis. Il dirige un programme dans l'Atlantic Council. C'est une organisation qui suit la politique étrangère des États-Unis. Sa nomination est bloquée par un sénateur à cause du problème de Sahara. Il fait un peu de chantage parce qu'il est contre la politique américaine. C'est le sénateur Inhofe de Oklahoma. Comme ça va durer un peu, le président Trump a nommé un intérim. C'est l'ambassadeur Yamamoto, Donald Yamamoto, qui a une longue expérience en Afrique. Il était ambassadeur en Éthiopie. Il était dans beaucoup d'ambassades des États-Unis. Je crois que pour le moment, le bureau africain du département d'État est en bonne main.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur la mort des 13 gendarmes tués samedi dans le sud-ouest du Niger. L'attaque a visé la brigade de gendarmerie d'Ayoru dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Mali. Comme pour l'embuscade du 4 octobre dans la même région, cette attaque n'a pas été revendiquée. Bagassi Koura a joint à Niamey Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement et spécialiste des questions de terrorisme.
Ce sont des assaillants qui sont venus du Mali voisin, qui ont attaqué pour une seconde fois la brigade de gendarmerie d'Ayoru.
Alors, vous dites une seconde fois, hein, parce qu'il y a déjà eu une attaque en mai contre cette même gendarmerie.
Absolument. Mai dernier, il y a eu une attaque où les mêmes éléments, apparemment les mêmes éléments, sont venus récupérer du matériel, des véhicules et des armes. Et c'est avec ces mêmes armes, apparemment, qu'ils sont revenus pour perpétrer cette nouvelle attaque.
Et ce qui donc laisse croire que des mesures n'ont pas été prises pour parer à toute éventualité.
Absolument. Apparemment, il y a une défaillance dans le système. Donc, comment se fait-il que des éléments qui ont attaqué il y a au moins 3 mois de cela une brigade et que des mesures ne soient pas prises pour vraiment les anéantir quand ils reviendront? Ce qui est sûr, ici au Niger, des mesures sont en train d'être prises. Les autorités vont revoir leur stratégie de défense de ces unités qui sont le long de la frontière malienne.
Ce qui est encore plus troublant, hein, c'est que c'est dans cette région de Tillabéri où il y a eu déjà une attaque le 4 octobre où 8 soldats américains et nigériens ont été tués.
Écoutez, il y a des hommes, il y a des éléments qui sont le long de cette frontière, il y a un dispositif qui a été mis en place, mais apparemment qui n'est pas réactif.
Est-ce qu'on est parvenu à faire le lien entre les assaillants qui ont perpétré cette dernière attaque et l'attaque de Tongo Tongo le 4 octobre qui a visé notamment des soldats américains et nigériens?
Non, il n'y a pas eu. On a écouté un peu par-ci, par-là les autorités qui n'ont pas fait de lien entre les attaques. Mais nous, selon notre analyse, ce sont des éléments qui viennent du Mali, qui connaissent parfaitement le terrain, qui ont des complices au sein de ces populations-là, parce que les renseignements ont failli.
Que ce soit l'attaque du 4 octobre ou celle de ce samedi, il n'y a pas eu de revendication.
Il n'y a pas eu de revendication comme plusieurs autres, des dizaines d'autres attaques qu'il y a eu dans cette zone-là. On parle d'une quarantaine d'attaques qui n'ont pas été revendiquées. Mais le mode opératoire semble être celui de Adnan El-Sahraoui qui essaie d'occuper toute cette zone-là, essayant d'opprimer les communautés qui ont des problèmes de gouvernance et surtout de pauvreté.
Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement et spécialiste des questions de terrorisme, joint à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24 heures sur 24.
C'est le 6 novembre que devrait reprendre devant la CPI, la Cour pénale internationale, le procès de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, des crimes commis en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011. En attendant la reprise de ce procès, Georges Ibrahim Tunkara est allé à la rencontre de quelques Ivoiriens pour recueillir leurs impressions.
Le 6 novembre prochain, les Ivoiriens seront sans doute encore nombreux devant leur petit écran pour suivre le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, un procès qui les passionne depuis son ouverture en janvier 2016. Jean-Marc Kouassi est étudiant, il plaide pour une justice équitable.
La justice est équitable, c'est-à-dire que c'est le remède d'une nation. Lorsque la justice n'est pas faite là, c'est des plaies, c'est comme un volcan qui est en train de bouillir, petit feu, puis un matin. On aurait souhaité soit on règle ça comme en Afrique du Sud, on fait table rase et puis on avance. La justice, là, il faut que les deux parties ou un conflit viennent s'expliquer. Quelque part, moi, je salue le procès parce qu'à travers le procès, il y a des choses qu'on ne savait pas, des choses que les Ivoiriens ne savaient pas, qui ne vont pas sortir.
Franck Bailly est, lui, fonctionnaire. Il est temps, dit-il, que ce procès prenne fin et que les Ivoiriens se retrouvent en vue d'une vraie réconciliation.
Je crois que ce procès doit s'arrêter. Parce que plus on va de procès, de témoin en témoin, ça peut frustrer, puis ça peut encore révolter la population. Pour une paix durable, on doit essayer de s'asseoir nous tous pour qu'ensemble les Ivoiriens puissent connaître la vérité, la vraie vérité. Et dire, même s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, aujourd'hui c'est le temps du pardon, c'est le temps de la vérité, laissons tomber tout. On doit arrêter ce procès, on doit trouver un terrain d'entente entre nous les Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant.
Au mouvement ivoirien des droits humains, on n'entend pas les choses de cette oreille. Le MIDH se réjouit de l'organisation de ce procès et espère que toutes les parties seront entendues par la CPI. Maître Yacouba Doumia du MIDH.
Nous attendons aussi en fait l'action de la Cour pénale internationale par rapport aux partisans de M. Ouattara qui voilà, ont aussi commis des exactions. Nous en appelons en tout cas au bureau du procureur pour que les enquêtes qui ont été ouvertes puissent être menées à terme, que le procès de M. Gbagbo et Blé Goudé puisse arriver à terme et que nous sachions exactement, voilà, vous avez bien vu qu'il y a des témoignages qui nous ont permis de comprendre un peu l'organisation des forces de défense et de sécurité. Et donc, d'autres procès pourraient nous permettre de comprendre l'entièreté des responsabilités dans la crise que nous avons vécue.
Rendez-vous le 6 novembre pour la reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-leader de la jeunesse proche de l'ancien président ivoirien. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Bénin, le phénomène des femmes dites « minées » dans le viseur des défenseurs des droits de la femme. Compte tenu des traditions, explique notre correspondante sur place, les époux béninois ont trouvé par ce biais le moyen de contraindre leurs femmes à une fidélité à toute épreuve. Il s'agit d'un procédé qui consiste à faire de la femme minée un véritable vecteur de mort contre tout homme autre que son mari qui s'en approchera. Dans le meilleur des cas, les deux sont collés l'un à l'autre et doivent faire le tour de la ville afin de se libérer du mauvais sort, nous dit encore Ginette Fleur-Adandé dans cette enquête.
Quelle que soit la bouffée de modernité reçue, il restera toujours quelques bribes de la tradition pour prouver que la civilisation dont se glorifient certaines sociétés n'est qu'un vernis passé sur la barbarie primitive. Le cas des femmes minées au Bénin est un exemple tangible. Selon le gardien de la tradition, Bella Bel Sodio, une épouse porte en elle les gemmes de la survie ou de la destruction de son foyer.
Chaque foyer a un esprit. Si cet esprit de foyer constate que la femme n'est plus dans les normes, l'esprit attaque automatiquement ce qu'on appelle le bonheur de cette dernière. Un esprit qui est appelé à l'emporter suite à l'adultère.
Miner sa femme ou sa fille, c'est une stratégie qui tue silencieusement dans certaines contrées et même dans les villes les plus en vue du Bénin. Pour Marielle Degoué, qui se bat depuis plus de 10 ans pour le respect et l'épanouissement des droits de la femme, ce pan de la tradition est une aberration qui ne saurait être tolérée par les temps qui courent, où le respect du droit à la vie de la femme est une nécessité.
Selon les informations que nous avons, c'est une pratique qui peut non seulement porter atteinte à la vie de la femme sur qui la pratique a été faite, mais également à la vie de l'homme, soit son mari, soit celui avec qui il aurait trompé, mais également les enfants ne sont pas épargnés. Soit ils deviennent orphelins, soit on s'en prend également à la vie des enfants si on en réfléchit.
Au cœur de cette stratégie meurtrière, l'infidélité, Nadia et Sophie sont toutes deux employées de direction dans une société de la place.
Les hommes sont infidèles 10 000 fois.
La personne qui te dit d'être fidèle, et lui, il n'est pas fidèle, tu viens le supprendre avec une femme sur le lit. Comment tu peux être fidèle? Pour moi, je ne peux pas être fidèle pour ça.
Alain est un directeur d'école primaire. Chez lui, que la femme soit infidèle ou pas, la tradition n'a aucun poids et ne peut la transformer en un tueur silencieux. Chez Fiacre, c'est le contraire.
Chez moi, on la châtie et si on trouve la personne avec qui elle a fait ça, on châtie aussi cette personne-là.
Il y a quelques années, à Porto Novo, bien deux militaires envoyés pour des opérations de supervision sont décédés pour avoir tenu des rapports sexuels avec des jeunes filles encore élèves. Il a fallu une rencontre des gardiens de la tradition pour lever le voile sur les dangers que court celui qui, par jalousie, mine sa femme ou sa fille.
Le fait de faire ça à la femme, c'est très très mauvais. Quand tu constates que ta femme est en train de vagabonder, oublie-la, laisse-la. Quand le type le fait, il faut qu'il se dise « Maintenant, je suis appelé à être fidèle durant toute ma vie. S'il ne peut pas être fidèle, c'est qu'il diminue son séjour de vie. »
Le sociologue est du même avis. Même si cela semble être une mesure de sécurité, elle compromet la stabilité de la femme. Karen Gagnier propose un retour aux valeurs humaines.
Miner une femme à son insu, c'est d'abord violer ses droits et c'est au risque et péril de sa vie. C'est une mesure qui ne tient pas compte de l'existence de la femme et qui ne tient pas compte de la systématisation des normes et des valeurs qui existent.
Le phénomène des femmes minées résistera autant quoi qu'il arrive. En plein 21e siècle, des hommes continuent de penser que la femme a moins de droits et que son égalité à l'homme ne s'arrête qu'à la porte des combats pour la promotion et l'épanouissement des femmes. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonier pour VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.